Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour les amis et bon dimanche. Dimanche avec une émission ce matin de Fergnaud fait le marché extrêmement cochon. Oui, moi le cochon, j'adore ça, vous le savez. Et quand l'automne arrive, justement, il faut se réconforter. Et c'est l'usage du cochon que de réconforter nos estomacs, nos esprits, nos cœurs. Et ce matin, j'ai tout l'honneur charcutier avec moi dans ce studio et au téléphone pour vous parler de bonnes et belles choses et surtout de beaux ouvrages. On va être dans le cochon jusqu'au cou et ça nous fait du bien.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
En tout cas, moi, ça me fait du bien et j'espère qu'à vous aussi. J'ai la chance d'avoir autour de moi dans ce studio la famille Véro presque au grand complet. Enfin, en tout cas, le père, le fils dans la famille Véro. Je demande le père. Bonjour Gilles.
Bonjour Vincent.
Bonjour Gilles Véro. Et je demande le fils. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vincent.
Alors, d'avoir les deux Véros en même temps, c'est chouette parce que ça permet de vraiment explorer à la fois leurs œuvres, hein, dans leur boutique parisienne, même s'ils sont stéphanois d'origine, et surtout de parler d'un livre qu'ils viennent de publier, Terrine feuilletée et pâté croûte avec des légumes. Ça, c'est incroyable, hein. Des légumes dans la charcuterie, ben oui, tout est possible. L'idée, c'était d'aller un petit peu de l'avant, peut-être, Gilles, d'ouvrir un peu le champ des possibles à la charcuterie.
En fait, depuis près de... plus de 20 ans, on fait des collections déjà saisonnières, donc printemps-été, automne-hiver. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est à partir d'un légume, donc un légume vraiment de saison, imaginer des recettes. Alors, il y a toujours de la viande, bien sûr. Hein, la viande est toujours présente dans la majorité de nos recettes, mais on part du légume et on imagine qu'est-ce qu'on fait avec la courgette, qu'est-ce qu'on fait avec une pêche, avec un légume d'hiver.
Ah, des légumes et des fruits aussi, il faut dire aussi, parce que c'est... Alors, avec nous au téléphone, depuis la Suisse, où il est en villégiature, hein, pour peut-être le dimanche, ou je ne sais pas s'il travaille, Fabien Perron. Bonjour Fabien.
Bonjour Vincent. Bonjour
vous travaillez le dimanche ou pas à l'auberge du Mont?
Non, dimanche, lundi, c'est repos.
Ah bah voilà, d'accord. Bah, donc je vous ai donc en villégiature, c'est bien ce que je disais. Fabien Perron, tout jeune nouveau champion du monde de l'œuf en meurette. Hein, alors on va expliquer quand même. Pour un cuisinier et charcutier et meilleur ouvrier de France, c'est un titre supplémentaire à s'accrocher au plastron.
Oui, bah en fait il y avait deux jolis clins d'œil. Le premier clin d'œil, c'est que je suis originaire de la Bourgogne, donc
bah
je suis
oui.
content finalement d'aller faire un tour au château du Clos de Vougeot. Oh,
et parce que c'est un plat bourguignon et ça se tenait au Clos de Vougeot à côté de Beaune. Et ça c'est magique, hein, pour un bourguignon d'aller gagner avec un plat bourguignon en Bourgogne, j'imagine. Même venant
exactement,
de Suisse.
Exactement. Et puis, ça donne un peu du sens aussi à l'intitulé championnat du monde.
Ouais, voilà,
on a eu la chance cette année d'avoir quelqu'un du Canada, quelqu'un des États-Unis et quelqu'un de Suisse. Et puis, ça permet de mettre en avant le lardon. Voilà, le lardon qu'il ne faudrait surtout pas négliger
dans
l'œuf en meurette.
Alors, fumé ou pas fumé dans l'œuf en meurette, le lardon?
Un petit peu fumé légèrement, mais pas trop.
Et s'il est trop fumé, eh ben on le blanchit à l'eau bouillante
exactement.
Avant. Hein, pour retirer le trop de goût de fumée. Alors, Fabien, vous êtes avec nous ce matin. Donc, si je comprends bien, champion du monde suisse. Hein, vous avez représenté la Suisse.
Oui.
Ah, ça fait un peu mal. Hein, pour un bourguignon, mais c'est pas grave. Hein. Fabien, vous aussi, vous sortez un très beau livre qui s'appelle Charcuterie. Au moins, on sait de quoi il s'agit. Qui est un peu le livre de la technique originelle à l'usage du grand public.
C'était un petit peu ça l'idée, effectivement. C'était un petit peu de pouvoir permettre à madame et monsieur tout le monde de charcuter à la maison, on va dire, tout en respectant les fondamentaux et puis tout en étant dans une charcuterie, on va dire, moderne et contemporaine.
Bon, alors, on va commencer tout de suite, Gilles et Nicolas, par expliquer ce que c'est qu'un charcutier. C'est un mot qui nous vient du vieux français. Charcutier, c'est celui qui cuit les chairs. Donc, par rapport à un boucher qui traitait la viande crue, le charcutier, on voyait qu'il y avait déjà une transformation, c'est ça ?
C'est exactement ça, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne se connaissent pas la différence entre un boucher et un charcutier, parce que dans beaucoup de régions en France, il y a également... ce sont des métiers qui sont pratiqués par le même professionnel.
Ouais, donc le boucher-charcutier, si on en a un dans
l'Est, dans l'Est et dans le Nord de la France. Nous, nous sommes vraiment des charcutiers, comme beaucoup de nos confrères, et notamment à Paris, plutôt des charcutiers que des bouchers-charcutiers. On n'en trouve pas tellement. Donc charcutier, et ça veut dire que nous, comme vous disiez, chair cuite, en fait, on va traiter tout ce qui est pâté, terrine, faire des farces. Donc la base, c'est la chair.
Transformée, quoi.
Transformée. Hein? Et puis, puis aujourd'hui, on voit avec ces livres, avec le dernier livre qu'on a fait avec Nicolas, toute la gamme qui peut être très étendue sur des pressés de légumes qu'on peut aussi appeler terrine en gelée, sur des feuilletés aussi qui peuvent être très cuisinées. Et en fait, aujourd'hui, cette charcuterie, elle se cuisine beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui évolue vraiment chez nous, en tout cas pour la Maison Véro.
Nicolas Véro, quand on est dans une famille de charcutiers, c'est un peu la voie royale, évidemment, de reprendre les techniques, les maisons, etc., et de succéder à son père. Mais il faut avoir la flamme, quand même.
Je pense que c'est un métier qu'on peut pas faire sans passion, sans flamme, ou en tout cas à une certaine intensité. Je suis la quatrième génération, donc ce que je fais un peu différemment, parce que bien entendu les générations se suivent mais ne se ressemblent pas, c'est quelque chose que mon père a fait, que mon arrière-grand-père a fait également. Mais on a la chance aujourd'hui, quand on est dans ce corps de métier qu'est la gastronomie, si jamais on veut faire les choses bien, faut les faire passionnément, faut les faire à fond, et donc en effet faut avoir la flamme pour faire ça.
Mais vu votre génération, quel âge vous avez, Nicolas ?
J'ai 30 ans.
C'est ça, 30 ans. C'est vous qui avez mis le légume dans les pâtés et les terrines ?
Non, mais l'idée, c'est pas de dire allez, on va mettre du légume ou quoi que ce soit. C'est un livre qui est super cochon. C'est un livre qui a vocation à être extrêmement accessible. Toutes les recettes sont accessibles et gourmandes, numéro un. Et numéro deux, sur cette question de dire parce que je suis un peu plus jeune.
Ah oui, on met du végétal. Les jeunes, ils aiment plus le végétal.
En fait, non, mais c'est surtout de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on mange de la même façon en mois d'août, plein cagnard, ou au repas de Noël, réveillon de Noël ? Bah, je pense pas. Mon père et moi, on pense pas. Donc, on s'est dit, faisons une charcuterie qui évolue aussi avec nos envies. Et moi, j'ai pas envie de manger la même chose à ces deux repas en plein mois d'août ou en plein mois de décembre. Et le légume nous permet de faire évoluer notre charcuterie comme ça et de suivre le fil des saisons et le fil de nos envies.
Alors, Fabien Perron, vous la connaissez bien, la jeunesse, hein, parce que avant de reprendre cette auberge sous le mont, à côté de Lausanne, vous avez été un bon bout de temps prof à l'école hôtelière de Lausanne. Donc, les jeunes, vous les avez côtoyés. Vous pensez qu'on peut encore enseigner la charcuterie de la même façon qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans ?
Alors, je pense que les fondamentaux, ils seront respectés, et puis les savoir-faire ancestraux vont être respectés. Ceci étant, on a quand même effectivement une belle jeunesse, même dans le milieu charcutier. Hein. Moi, quand je vois le nombre de jeunes artisans charcutiers qui se sont installés en France ces dernières années, je trouve que c'est plutôt réconfortant. Et on voit que ces jeunes, ils ont envie d'apporter une charcuterie un peu moins grasse, une charcuterie un peu moins salée, une charcuterie de saison, un petit peu se séparer du sel nitrité. Et voilà, on sent qu'il y a une vraie ferveur. En tout cas, moi, je suis très ravi de voir grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on arrive à suivre un peu nos jeunes confrères. Et il y a plein de jeunes qui font des belles choses. Il y a bien sûr des maisons comme la Maison Véro, qui est une maison qui est assez magique et qui dure et qui perdure dans le temps, parce que effectivement, de père en fils, ils se transmettent la flamme et la passion. Mais on voit qu'effectivement, toute cette jeune génération a envie de faire bien, de faire des belles choses et de ravir là aussi une jeune clientèle. On voit une jeune clientèle aussi qui revient de plus en plus dans les commerces de proximité, et tant mieux.
Et puis
il y a vraiment une jeune génération qui a très faim,
une jeune génération, et puis des femmes, des jeunes femmes,
bien sûr.
Recevra tout à l'heure en deuxième partie d'émission Mélissa Delay, qui est la toute nouvelle présidente des charcutiers et charcutières du Grand Paris. Jeune génération, mais avec un savoir-faire certain, parce que bon, il y a une transmission, hein. C'est à Sceaux, c'est dans les Hauts-de-Seine, et c'est une maison tradie, mais qui a su évoluer également. Fabien Perron, votre livre, de ce point de vue-là, il s'adresse vraiment à ceux qui voudraient faire la charcuterie à la maison. Quels sont les fondamentaux? Peut-être déjà savoir choisir ses produits et savoir ce que sont les morceaux d'un cochon.
Effectivement. Alors, ce livre, moi, il y a effectivement toujours cette note un petit peu pédagogique, on va dire.
Bah oui, on ne se refait pas, hein, Fabien.
Voilà, on ne se refait pas. Et effectivement, il y a dans ce livre, attention, comment bien choisir vos morceaux, comment travailler en cuisine, comment s'équiper correctement. On dresse un petit peu déjà les bases avant de se mettre à l'ouvrage, avant d'enfiler le tablier sur des bases qui sont impératives.
Avant d'enfiler le tablier, hein, parce qu'en charcuterie, on met aussi un tablier, et puis souvent, il est étanche.
Je le marque dans le livre, mais c'est vrai que rien que le fait de mettre le tablier, déjà, ça veut dire qu'on se met à l'œuvre.
Oui, et puis voilà. on aiguise ses couteaux, hein, avec un bon fusil, parce que moi, je vois trop de gens qui se mettent à découper, surtout quand on découpe de la viande, des morceaux de viande, hein, quel qu'il soit, sans avoir aiguisé son couteau, c'est même pas la peine. Hein. Le couteau, c'est
et
vraiment.
On nettoie jamais ses lames au lave-vaisselle, quelle qu'elle soit, on les lave à la main.
Voilà. Je peux vous dire, c'est un combat à la maison. Tant pour la lame que pour le manche. Hein.
Tout ça, je l'explique dans le livre un petit peu aussi sur quelques pages. Il y a quelques chapitres un petit peu pour aider les uns et les autres à bien se mettre en place. Et puis après, effectivement, on repart sur des fondamentaux, mais tout en étant, on va dire, au 21e siècle. Quoi.
Bah, on va plonger dans vos livres, messieurs Véraud et Perron. On se quitte une minute et on se retrouve dans la charcuterie française. La belle.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Avec moi ce matin pour cette émission très cochon, trois grands charcutiers. Et vous avez vu que j'ai pas dit traiteur, hein. J'ai dit charcutier, parce que là, quand on dit charcutier... parce qu'on explique, on a expliqué en première partie, charcutier, ça vient de charcuitier, celui qui cuit les chairs. Hein. Traiteur, bon, alors c'est tout ce qui va autour, et c'est vrai qu'on peut pas être charcutier sans être traiteur à notre époque, mais charcutier, c'est vraiment le travail de la cuisson, donc de la transformation, hein, par rapport à un boucher qui ne ferait que la découpe. Hein. On peut dire ça.
Mais en fait, plus que de la cuisson, c'est de la préparation, bien sûr, et de tout le travail des chairs, des farces, des... Les mêlées, et donc...
C'est votre bouquin qui vient de me tomber sur le pied.
Ah, il est résistant.
Ah non, mais dites donc. Ah, je me fais mal. Alors, vous sortez terrine feuilletée et pâté croûte avec des légumes. Avec nous au téléphone, Fabien Perron pour charcuterie. On voyait qu'on est vraiment dedans. Alors, moi, je plonge. Je plonge dedans et j'aime bien la classification. En fait, vous avez rangé par catégorie de produits. Les terrines, les pâtés croûtes, etc. Ça permet d'avoir un panel assez large, en définitive, Gilles, dans votre livre.
Assez large. Et en fait, par rapport au livre qu'on avait fait il y a 3 ans déjà, on a voulu garder ce qui avait marché, c'est-à-dire cette classification qui était très importante. Et au-delà de ça, pour pas faire un tome 2, pour pas faire un deuxième livre, on a voulu vraiment faire un livre différent. Surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer aussi à ceux qui avaient déjà bien compris les recettes, comment ils pouvaient aller
évoluer
pour se rapprocher du côté professionnel et un peu perfection.
Alors, ce que j'aime bien, moi, si je puis me permettre, c'est que dans vos boutiques, hein, et vous venez d'en ouvrir une de plus à côté de la Bastille, à Paris, en bas du Marais, on peut dire.
C'est ça, entre Bastille et Saint-Paul,
oui. Ce fameux quartier Saint-Paul, avec une très belle église d'ailleurs. On peut dire que dans vos boutiques, vous mettez ça en œuvre. C'est pas comme si vous faisiez de l'hyper-tradi et que tout d'un coup, on disait, tiens, on va faire un livre légumes pour plaire aux gens qui seraient flexitariens. Non, c'est déjà ce que vous travaillez, Nicolas.
Nous, aujourd'hui, à la Maison Véro, ce qu'on essaye de faire, c'est une charcuterie contemporaine. Une charcuterie contemporaine, ça veut dire aussi une charcuterie qui regarde hier, qui regarde ce qu'on appelle entre charcutiers la tradition, mais une charcuterie qui est ancrée dans son époque. Une charcuterie qui plaît aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, en fait. On n'est pas là pour faire une sorte de jeunisme où il y aurait que les jeunes qui seraient intéressés, qui auraient le droit de venir. On veut faire une charcuterie qui parle à tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre. Et donc de là découle par exemple nos principes de collection, où on fait des collections automne-hiver, collections printemps-été. Comme ça, on a un renouvellement de recettes qui est très important, et on a une créativité également qui est très importante. Parce que si on fait un parallèle, souvent, malheureusement, colle à la peau l'image du charcutier qui reste sur ses classiques, ses fondamentaux. C'est très bien, je suis le premier à adorer l'andouillette, je suis le premier à adorer les rillettes.
Ah, moi aussi.
Mais ce que je veux dire par là, j'adore, mais
d'ailleurs,
plus que de raison.
Puisque vous parlez de rillettes, je vous coupe. Il y a à peu près tout
sauf du cochon dans vos rillettes. Vous faites des rillettes à peu près tout.
Il y en a aussi. Mais en fait, on fait tout. On fait des rillettes cuites au bouillon, donc un peu plus légères, et des rillettes classiques cuites dans la graisse de cochon.
Et plein de légumes différents et des ambiances différentes. Ça peut être un peu Tex-Mex, ça peut être un peu des rillettes du Sud, ça peut être un peu des rillettes de Méditerranée.
Et c'est ça, en fait, ce sont des rillettes. Est-ce que la rillette du Mans ou la rillette de Tours, on aurait envie de la manger au bord de la piscine
Moi, oui.
Mais des aficionados comme nous trois, oui. Mais la majorité des gens, non.
En tout cas, donc, on s'adapte. Vincent, pour avoir la véritable rillette du Mans, la rillette de Tours, il fallait acheter le premier livre il y a 3 ans.
Bien sûr. Voilà. C'est l'évolution. Hein, c'est le tome 2, c'est l'évolution. C'est vers l'avenir. C'est la charcuterie vers l'avenir. Vers l'avenir et au-delà. Oui, enfin bon. C'est Buzz l'éclair. Les véros sont transformés en Buzz l'éclair du cochon. Mais c'est très bien. Hein, moi, j'adore. En revanche, avec Fabien Perron qui est avec nous au téléphone, meilleur ouvrier de France et cuisinier aussi, il faut bien le dire, hein, puisque dans son auberge du Mont, il est à côté de Lausanne. Hein, si vous cherchez l'adresse, hein, je vous dis où c'est tout de suite. Fabien, là, votre livre, il s'adresse, alors je dirais, à ceux qui veulent faire la charcuterie, mais pas seulement. Il y a aussi pas mal de cuisine dans votre bouquin.
Oui, mais comme disaient Gilles et Nicolas, ils ont entièrement raison. La charcuterie est devenue un produit aussi qui se cuisine, donc qui va un petit peu plus loin. Et puis on le voit, hein, ça reste aussi, la charcuterie reste aussi la base quand même de tout ce qu'on va retrouver dans la restauration type bistrot, bistronomie. On a vu le retour en force du pâté en croûte, même dans la gastronomie. Hein, il y a beaucoup d'établissements maintenant qui présentent du pâté en croûte. Mais nous, on voit tout ce qui est terrine, rillettes, pâté pantin, ce genre de choses, c'est quelque chose qui marche. Les gens sont très friands dans la cuisine.
Moi,
donc,
j'adore.
C'est très cuisiné, c'est très accompagné. On fait même, nous, en ce moment, à la carte, on a un pâté pantin végétarien. Donc, on a transformé un peu le pâté pantin et à l'intérieur, en fait, on a fait un pressé avec céleri, patates douces, carottes. Pommes de terre. Et on
vous avez un peu pompé sur les verrous, quoi. Hein, c'est ça.
Non. Personne ne pompe sur personne.
Je crois qu'on se stimule mutuellement.
Exactement.
Et ça nous fait du bien parce qu'on est très content de voir la réussite des uns et des autres. On est une belle équipe, on s'entend tous très bien. Et puis, on est tous ravis de voir qu'ensemble, on fait avancer le métier, en fait.
Non, mais Fabien, dans votre livre, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et je les invite, comme celui des Véroules, ce tome 2, là, d'aller le voir, on trouve, bon, alors, pêle-mêle, avec quand même des recettes extrêmement classiques, le jambon entier au foin, il faut se le coller quand même, hein, quand on est à la maison, il faut avoir de quoi nourrir, le boudin noir aux oignons, le pâté pantin, des choses qu'on trouverait dans une... Vous émaillez cela de différentes recettes. Par exemple, les tripes au calvados et au cidre. Bon, bah, c'est un peu les tripes à la mode de Caen, revue, mais ça, c'est du bœuf, la tripe. Hein. Donc, normalement, ça échappe au charcutier. Le confit de canard, gras à la sarriette. Ça veut dire qu'autour de vos recettes charcutières, il y a aussi des recettes purement de traiteurs.
Oui, alors clairement. Et puis, vous parliez de charcutier. Je crois que le métier de charcuite et de charcutier, il a évolué. Parce que chair, ça ne veut pas forcément dire synonyme de cochon.
Ah non! Ah
la
bah non!
La tomate, c'est de la chair. Le poisson, c'est de la chair. La volaille, c'est de la chair.
Ce que vous dites, Fabien, c'est que dans le mot de charcutier, de charcutier, il y a déjà l'idée de traiteur.
Oui, je pense un petit peu que oui, parce qu'il y a de la transformation, il y a de la production de masse, aussi, hein, beaucoup.
Mais est-ce que ça voudrait dire.
Il y a de la distribution.
Est-ce que ça voudrait dire que traiteur, ça n'est pas la façon dont on traite les convives ou les clients, c'est plutôt la façon dont on traite les produits?
Je pense que c'est la façon dont on traite l'ensemble, effectivement. Ouais. Je pense que c'est un tout. Non, mais je pense que c'est un tout, effectivement. Et moi, je suis assez content que dans les années, probablement 70-80, on ait raccroché au monde de la charcuterie ce métier de traiteur, parce qu'il y a des productions qui sont un petit peu similaires, il y a des modes de fabrication qui sont un petit peu similaires. Mmh. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le titre de meilleur ouvrier de France, depuis quelques temps, c'est meilleur ouvrier de France charcutier, traiteur. Donc voilà, les deux ne sont pas incompatibles et je trouve que ça va plutôt pas mal.
Alors, Gilles Véraud, vous qui avez vu cette transformation du métier de charcutier pur et dur vers le traiteur.
Ça veut dire que je suis considéré comme un vieux maintenant, ça y est.
Non, ça veut dire que vous avez vu ce passage.
Non, en fait, j'ai 40 ans de métier là depuis quelques semaines. Là. Effectivement, quand j'ai débuté à Lyon en 1983, J'ai débuté dans une maison que tout le monde connaît, la maison Raynon, et j'ai travaillé aussi avec mon père, bien sûr, à Saint-Étienne.
Probablement le meilleur cervelas encore sur la place de Lyon,
vrai,
hein, le cervelas de Raynon, pas le saucisson à cuire.
Et effectivement, ces années 80, pour moi, sont encore beaucoup dans ma mémoire, et j'en garde beaucoup un souvenir très, très ému, quelque part, mais je pense que ce serait dommage d'être trop accroché à cette période. Donc c'est pour ça que voilà, à partir des années 2000, fin des années 90 déjà, quand on a ouvert notre première boutique avec Catherine, dans le 6e à Paris, on a vraiment commencé à travailler différemment. On s'est intéressé à l'élevage aussi, ça c'est un long sujet, on pourrait en parler pendant 2 heures. Parce que l'élevage, aujourd'hui, sans notre éleveur, sans nos éleveurs, de cochons, de volailles, on n'est rien.
Oui, mais Gilles, est-ce que ce n'est pas préjudiciable? Est-ce que dans le fait de passer au traiteur, on ne portait pas le ferment de la disparition du charcutier?
Alors,
je veux dire, du salaisonnier.
Ça, c'est vraiment les années 80, effectivement, où on ne mettait plus, on avait un peu honte de sa charcuterie, et on ne la mettait plus parce que ce n'était pas tendance. Et
tous les jambons de Paris s'achètent aujourd'hui. Il y a très peu d'artisans charcutiers qui font eux-mêmes leurs jambons de Paris.
J'ai beaucoup de... Ouais, malheureusement. J'ai beaucoup de mes copains qui, à l'époque, dans les années 80, avaient honte de dire qu'ils étaient charcutiers. Ils disaient qu'ils étaient traiteurs et qu'ils étaient cuisiniers.
C'était pas chic, quoi.
Moi, je n'ai jamais eu honte de ça. Aujourd'hui, j'ai toujours pensé qu'en fait, l'image de son métier, c'était l'image que nous, on voulait bien donner. Donc, même si peut-être que l'image était un peu écornée ou vieillissante dans les années 90, moi, j'ai jamais ressenti ça parce que je me suis donné l'image que je voulais, qu'on souhaitait avec Catherine. Et c'est vraiment, vraiment comme ça que je vois l'image de notre métier.
Vous n'avez pas balancé votre porc, quoi, ou dans les années 80
Non.
Non, 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 non. Lui, il n'avait rien fait, celui-là. Hein. Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui, le titre de charcutier a retrouvé quelques lettres de noblesse?
Je pense très sincèrement que oui. Je le pense parce que je le vois auprès de mes amis, auprès des gens que je peux fréquenter et ainsi de suite. Moi, je suis très fier de dire que je suis charcutier. Et à titre personnel, je ne dis pas que je suis charcutier traiteur, je dis que je suis charcutier. Avec tout ce que ça implique derrière en tant que tradition charcutière et tout ce qu'on essaye de mettre en place pour demain. Toutes nos créations, alors on disait, est-ce que c'est du traiteur et ainsi de suite. Pour moi, c'est de la charcuterie à 10 000%. La charcuterie des années 70, la charcuterie des années 1900, et on remonte parce que c'est un savoir-faire qui est ancestral, comme l'a dit Fabien Perron, nous on essaye de faire tous autour de la table et tous les artisans qui sont en France et ailleurs, on essaye de faire la charcuterie de 2023. Et la charcuterie de 2023 ne sera pas celle de 2030
et
ainsi de suite.
Et
on doit toujours évoluer et pas être fermé dans un carcan.
Fabien Perron, un dernier mot. À travers les mots de Nicolas Véro, on comprend que le charcutier était là bien avant le restaurateur, hein, dans l'histoire des métiers de bouche. C'est un peu l'histoire de votre vie aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un jeune restaurateur, mais charcutier de métier et cuisinier. Fabien Perron, un dernier mot.
Non, mais en fait, moi, j'ai commencé ma carrière avec un CAP de cuisinier, mais je suis fils de charcutier. Donc j'ai toujours navigué un petit peu entre les deux, j'en suis très content, je suis fier de dire que je suis charcutier, je suis fier de dire que je suis cuisinier, et je trouve qu'on a la chance de partager tous ensemble en ce moment nos beaux métiers, et vive la charcuterie, et voilà. Je ne suis pas inquiet pour notre avenir, parce qu'on est en train de faire de belles choses tous ensemble.
Eh bien, je viens de voir rentrer en studio Mélissa Delay, la nouvelle présidente des charcutiers du Grand Paris. Elle a les yeux qui brillent à vous entendre, messieurs, et elle n'a pas besoin de ça, parce que ses yeux brillent tout seuls, hein, quand on parle de charcuterie de toute façon. On va la retrouver dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je renvoie à vos ouvrages respectifs, Terrine feuilletée et pâté croûte avec des légumes. Ça, c'est l'opus 2 des livres de la famille Véro, et simplement charcuterie pour Fabien Perron, qui vous aidera, si vous voulez vous mettre à la charcuterie chez vous, à commencer sur le bon pied. Merci beaucoup, bon dimanche à vous, messieurs.
Merci Vincent.
Merci Vincent.
Merci, au revoir, merci.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Mes amis, la famille Véro a quitté le studio pour voler vers son labo de charcuterie. Et on continue dans une émission tout cochon ce matin. Et je reçois Mélissa Delay. Bonjour Mélissa.
Bonjour Vincent.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va, c'est bien. Alors, le dimanche, c'est un jour où généralement les charcutiers travaillent, le dimanche matin en tout cas. Là, oui, vous avez quitté donc votre magasin de Sceaux dans les Hauts-de-Seine pour venir en studio, et je vous en remercie. Mélissa, la maison de lait au porcelet rose, hein, ça existe depuis combien de temps?
Oula, depuis très longtemps, depuis plus de 60 ans.
C'est 60 ans.
Oui, c'est une institution.
C'est une institution, et la famille Delay toujours au poste, quoi.
Exactement. On reprend le flambeau avec grand plaisir.
Vous aussi, vous êtes né pratiquement en croûte, hein. Dans le pâté croûte dès la naissance.
Exactement. On a toujours été des vrais épicuriens chez nous.
Alors, quel âge avez-vous, Mélissa, si c'est pas indiscret? À votre âge, on peut demander. Hein.
33 ans.
33 ans, donc une jeune charcutière qui vient de, on va dire, d'être nommée au poste de présidente de la Fédération des charcutiers du Grand Paris.
C'est ça.
Alors, le Grand Paris, c'est l'Île-de-France, quoi, globalement.
Exactement. Oui, exactement. 92, 93, 94 et Paris.
Ah, bah, génial. 92, 93, 94 et Paris. La petite couronne, comme on dit.
Exactement.
Donc, l'Essonne échappe à votre juridiction?
Pour l'instant, oui.
Bon, vous allez réussir à l'attraper quand même, j'espère, parce qu'il y a des beaux charcutiers en Essonne.
Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce que c'est cette fédération, en fait? Elle regroupe qui?
Alors, elle regroupe tous les fabricants charcutiers de la région, mmh, qui ont un but commun, faire parler du métier, transmettre, mmh, et aider les jeunes à intégrer le métier et l'école des charcutiers.
Alors c'est intéressant parce que vous avez croisé Gilles et Nicolas Véraud ici en studio, et on a parlé du métier de charcutier, enfin on l'a évoqué en tout cas, c'est un métier auquel je tiens fort. Gilles Véraud a vu la transformation de charcutier vers traiteur, c'est-à-dire au fond l'adjonction du terme de traiteur, mais qui recoupe une couleur un peu différente dans la profession, parce que le charcutier c'est celui qui cuit les chers, donc on se doute bien que c'est de la transformation carnée, et le traiteur ça va plus vers le végétal, ou en tout cas la garniture et tout ce qui va autour, non?
Oui, exactement, mais en fait on se renouvelle à chaque génération, à chaque moment on se renouvelle tout le temps sur les produits qu'on peut proposer aux clients, sur les tendances maintenant je trouve que de plus en plus de mes confrères font de la charcuterie raisonnée et adaptée. On a un beau métier.
Oui, raisonnée, adaptée, mais quand même gourmande.
Ça n'empêche pas, heureusement.
On n'empêche pas le gras, quoi. On lutte pas contre le gras, parce que le gras, quand c'est du beau gras, c'est aussi un véhicule du goût, et c'est important dans la charcuterie.
Exactement, c'est exauceur de goût, et on n'est pas... Quand on sait bien le travailler, il n'y a pas besoin d'en mettre quantité astronomique.
Du moment qu'on l'utilise bien. Alors, qu'est-ce qui a poussé, d'après vous, les charcutiers parisiens, parce qu'il doit y avoir des fortes têtes de cochons, et depuis des générations, qu'est-ce qui les a poussé à prendre une jeune femme comme présidente?
Mais parce que je pense sincèrement que c'est l'évidence, les femmes dans notre métier ont grandement leur place. C'est très simple, c'est-à-dire que n'importe quel charcutier qui a une boutique, la femme a sa place, mais elle est très importante parce qu'on fait le retour client. Un charcutier peut faire la plus belle des recettes si sa femme n'est pas là en boutique pour lui dire « Écoute, je pense que d'après les retours clients, on devrait faire ci, ça comme ça, évoluer, modifier la recette. » Le charcutier dans son laboratoire, il n'a pas le retour.
Bien sûr, bien sûr.
Et mine de rien, c'est nous qui mettons...
En musique, quoi, en quelque sorte.
Oui, la présentation compte également.
Oui, mais Mélissa, j'ai souvent reçu ici votre homologue chez les Bouchers, Véronique Langlais, qui est la présidente des Bouchers du Paris. Bouchère, charcutière, il y a évidemment une connivence. Moi, j'admire et j'applaudis des deux mains à voir apparaître les jeunes femmes dans ce métier et surtout dans les fédérations, et prendre des postes importants et des charges importantes, mais vous êtes jeune, vous êtes une femme, et je dis, il faut mener les troupes, hein, parce que les charcutiers, je vous dis, il y a des fortes têtes, enfin, on le sait bien dans ce métier, eux, ils ont eu envie de se mettre sous votre coupe.
Oui, en effet, ils m'ont fait confiance. Après, je pense aussi que la force que nous avons en tant que femmes, je parlais de la présentation au magasin, etc., mais quand je vois comme Emeline, Manon, enfin tout plein de charcutières, on a également la casquette de fabricante. On fabrique
bien sûr,
également.
Bien sûr. Donc mais Véronique Lenglet me disait au début, mon mari boucher voulait même pas que je touche les couteaux.
Alors que, maintenant ça a évolué, c'est-à-dire qu'on est aussi à la fabrication, à la création, on ne fait pas que vendre.
Oui, parce que la charcuterie, c'est de la cuisine aussi. Hein.
Exactement.
Quand on dit charcutraiteur, il y a de la préparation, donc c'est évidemment des recettes, des fiches techniques. C'est pas uniquement découper les morceaux de cochon et les faire cuire.
Il y a un réel travail, oui.
Il y a un réel travail. D'ailleurs, est-ce que la profession, elle évolue beaucoup, justement, sur le plan culinaire? Vous êtes beaucoup plus à l'écoute du monde de la cuisine en général?
Oui, on fait beaucoup maintenant de charcuterie cuisinée dans nos boutiques. Mmh. On aime bien proposer aux clients, certes, on vend par exemple le boudin blanc, mais on aime bien également le transformer. On fait des tartelettes, on fait des plats cuisinés avec. Mmh. On évolue.
Oui, mais on disait, est-ce que c'est pas au détriment du métier de charcutier originel qui est, ne serait-ce que, allez, on a pris l'exemple avec Gilles Véraud tout à l'heure, je disais, il n'y a plus beaucoup de charcutiers qui achètent, qui fabriquent leur jambon de Paris, leur jambon blanc, leur jambon cuit, souvent ils l'achètent à des grands groupes.
Moi, je vois plutôt les choses dans d'un œil différent. Je vois qu'il y a quand même une bonne quinzaine de charcutiers qui fabriquent encore leur jambon. Mmh. D'ailleurs, on va bientôt faire une newsletter là-dessus.
Ouais. Parce que c'est important. C'est un marqueur fort, le jambon. Hein. C'est quand même le produit de base.
Exactement. Nous, en tout cas, sur notre région, on est 60 points de vente de charcuterie. Mmh. Et on est, oui, je pense une bonne vingtaine à fabriquer notre jambon encore. Mmh. À chacun sa recette en plus.
Donc oui, parce qu'il faut bien faire la différence, Mélissa, entre salaisonnier et charcutier. Mmh. Charcutier, chair cuite, donc on peut dire le jambon cuit, le jambon blanc de Paris par exemple, ou d'ailleurs, hein, Dior, que, bon, c'est du travail charcutier. Faire du saucisson, de la saucisse sèche, ça, c'est le travail du salaisonnier.
Exactement.
C'est autre chose.
C'est une technique différente et on n'est pas tous les charcutiers ne sont pas aptes à être salaisonniers.
Mmh. Alors, vous êtes venu me parler, évidemment, de votre charge et également de votre maison, le Porcelet Rose, mais aussi vous préparez un concours qui vous tient très à cœur.
Oui, c'est le concours du meilleur fromage de tête de France.
Ah, le fromage, ça aussi, c'est un marqueur fort.
C'est un produit, je pense, qui est essentiel dans nos boutiques. Et les clients, ce qui ressort souvent, c'est qu'ils ont beaucoup de tendresse pour quand on voit un fromage de tête, ça rappelle souvent l'enfance, mais n'importe quelle génération. Et c'est un produit qui n'est pas connu qu'en France. C'est un produit qui est fabriqué.
Oui.
Ah oui, bien sûr.
C'est un emblème de la belle charcuterie française.
Exactement.
Alors, il faut dire pour ceux qui ont peur, qui ne connaissent pas ce vocable, fromage de tête ou pâté de tête. Hein, on peut dire les deux.
Exactement.
Mais le mot fromage fait référence, comme pour le fromage d'ailleurs, à la forme. Oui. C'est-à-dire au fond le moule.
Exactement.
Hein, fromage, ça veut dire un moulé, quoi.
Oui, presser, mouler, mettre en forme.
Ouais, exactement. Mettre en forme. Formage, fromage. Parce que autrement, on se dit, ah mais quoi, ils mettent du gruyère dedans ou, enfin bon. Non, mais je. Alors, il faut savoir que dans le pâté tête ou fromage de tête, il y a beaucoup de morceaux qui rentrent, beaucoup de morceaux de la tête de cochon, du gélatineux, mais aussi de la chair, mais aussi du gras.
Exactement.
En fait, c'est un peu un représentant de toute la charcuterie, hein, à travers les morceaux utilisés.
Et ce produit aussi évolue avec le temps qui passe. On met maintenant, certains charcutiers mettent plus, par exemple, de joues pour avoir un fromage de tête un peu plus maigre.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc en fait, on s'adapte. Encore une fois, on s'adapte à la demande.
Moins de cuir, plus de joues. Voilà. moins de couane, plus de parce que le gélatineux, ça fait un petit peu peur. Pourtant, parfois, hein, à certains, pas à moi, mais certains peuvent avoir un peu peur quand on n'est pas habitué. Mais ces collagènes sont essentiels justement à la tenue de cette forme.
Exactement. On part sur des cuissons de nuit. Et ça permet d'avoir une tenue naturelle, en fait, d'un produit.
Et de payer moins cher l'électricité aussi.
Exactement.
Non, mais c'est important. Hein.
Oui, on sait tous.
C'est important, bien sûr. Mélissa, c'est quand ce concours?
Alors, ce sera le 7 mars, l'année prochaine.
7 mars 2024.
À l'École des charcutiers.
Ah, au CEPROC, à Paris, dans le 19e, je crois.
Hein.
Effectivement, le CEPROC qui forme les charcutiers traiteurs, ça reste l'organe d'ailleurs de transmission et d'enseignement, hein, pour
exactement,
la charcuterie
c'est
française.
C'est une magnifique école qui a été créée par nos anciens charcutiers. On est très très fiers de former chaque année des BEP, des BP, des reconversions professionnelles de plus en plus. Et cette année, du coup, on va remettre au goût du jour ce concours qui existe depuis les années 80 en ouvrant les jurys à tout corps de métier, c'est-à-dire qu'on aura des cuisiniers, on aura des pâtissiers, on va faire une belle sélection avec mon président de concours qui sera David Baroche.
Ah, David Baroche, célèbre cuisinier des belles une belle brasserie parisienne dans le 8e, qu'on embrasse d'ailleurs, hein, David. Alors, David Baroche, ça me fait penser tout nettement à son utilisation du cochon. Et dans le dernier quart d'heure d'émission, je vais vous laisser repartir à votre labo, parce que le dimanche, et à la boutique, hein, parce que le dimanche à Sceaux, ça doit faire la queue devant. Et parce qu'on va avoir, figurez-vous, une candidate pour le championnat du monde de pâté croûte. C'est Émeline Aubry que vous connaissez,
hein,
qui est installée dans le Perche. Alors, elle ne se dit pas charcutière, elle se dit cuisinière, mais cuisinière de pâté croûte, donc elle est vraiment à la frontière des deux métiers. Le pâté croûte, c'est important aussi pour vous, dans votre boutique et dans l'environnement charcutier?
C'est un produit très important, surtout que c'est un produit qu'on peut décliné à l'infini.
Ouais, oui,
et
bien sûr.
C'est une œuvre d'art. Et d'ailleurs, Emeline, je trouve, elle peut, de par son savoir-faire, elle fait rayonner ce produit.
Et vraiment. Puis en plus, là, je pense que c'est une très belle expression de la présence féminine dans un métier qui est souvent dévolu aux hommes. Quand on regarde le pâté croûte, on va lui dire dans un instant, quand on regarde le pâté croûte, la façon dont est traité, c'est presque de la dentelle, parfois, de la croûte. Elle a un travail sur l'esthétique qui est très important. Alors, il faut que ça soit bon. Hein. Il faut que ce qui est à l'intérieur soit bon, bien entendu, mais il faut aussi que ça soit appétant pour l'œil.
Exactement, mais vous savez que mon slogan est très simple, de l'art et du cochon.
De l'art et du cochon, ah ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup Mélissa Delay.
Merci Vincent.
Et bonne chance à la tête des charcutiers du Grand Paris, hein, parce
beaucoup.
qu'il y a du boulot, quand même.
On adore travailler.
Pour emmener toutes vos troupes. Allez, on va se retrouver dans un instant du côté du Perche, dans le Perche, qui est une belle région de cochons aussi. Hein. Et moi je pense notamment au champion du monde du boudin noir à Mortagne-au-Perche chaque année. Ah ça si, ça fait rêver. Et on va se retrouver avec Emeline Aubry, on va parler pâté croûte. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fernio fait le marché.
On a déjà épuisé le sujet des charcutiers et on continue avec les charcutières. Les belles charcutières sont avec nous ce matin. Mélissa Delay vient de me quitter et je retrouve un peu plus loin, hors d'Île-de-France, du côté du Perche, Émeline Aubry qui est avec nous. Bonjour Émeline.
Bonjour Vincent.
Alors Émeline, je disais charcutière, mais en fait, charcutière par destination et par choix, mais votre vrai métier, vous, c'est cuisinière, un peu comme Fabien Perron qu'on avait tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Écoute, j'ai pas mon CAP charcutier, donc
voilà.
Je suis vraiment cuisinière.
Mais on peut pas être charcutière sans avoir le CAP ? Si, de cœur en tout cas.
Quand tu t'installes par rapport à l'administration, non, il faut quand même justifier. C'est un métier où il faut que tu justifies d'un professionnel. Donc, je ne suis pas charcutière, je suis cuisinière.
mais une cuisinière qui, on va dire, qui pratique quand même la charcuterie, en tout cas, un des éléments les plus emblématiques de la belle charcuterie et aussi de la pâtisserie, c'est le pâté en croûte.
Eh bien oui, écoute, j'ai quitté les grandes brigades étoilées pour, depuis le confinement, me dédier à cette charcuterie.
Par passion, par amour.
Par passion, exactement. Ah bah oui, je suis tombée dingue. Mais le pâté en croûte, si tu savais, c'est technique, c'est créatif.
Ah bah si, je sais.
Ça coche toutes les cases. Oui,
absolument, on en parlait avec Mélissa Delay, de dire qu'en plus, il y avait cette touche féminine incroyable qui est la véritable création. Parfois, on parlerait de dentelle, de résille, que vous faites avec votre pâte autour de farces magnifiques.
Eh bien, écoute, oui. Alors, oui, effectivement, j'adore créer des dentelles sur les chapeaux de mes pâtes. Et ça me rappelle, tu sais, la dentelle d'Alençon.
Est-ce ah, bah
tu
oui.
Elle est fameuse, cette dentelle d'Alençon.
Fameuse.
Donc, j'adore faire ça. Et j'y mets des fleurs, j'y mets des feuilles, j'y mets de la poésie sur mes pâtes en croûte. C'est comme ça que je vois, moi, mon métier de pâté en croûte.
Ah bah ça tombe bien que vous me parliez de la dentelle d'Alençon, puisque là, on est en bordure nord du Perche, on va dire nord-ouest, dans l'Orne, un peu plus loin. Et à Alençon, on va se tenir la semaine prochaine un salon qui s'appelle Tous Paysans, qui est une sorte de mini-salon de l'agriculture, 28-29 octobre, donc le week-end prochain. Et vous y serez, vous représenterez le pâté croûte percheron.
Exactement, oui. On va partager avec l'éleveur de cochons avec qui je travaille au quotidien, qui s'appelle Jérôme Le Poivre. Les cochons sont dans le pré.
Ouais.
Il élève des cochons de Bayeux, tu sais, une race rustique normande.
Ah bah oui, oui, magnifique.
En plein air, ça c'est très rare. Il les élève pendant 20 mois, donc c'est un cochon remarquable, très très bon. Et donc on partage un stand pour le week-end. Moi je vais le rejoindre le dimanche. Mm-hmm. Et donc vous trouverez mes pâtés en croûte en vente à la tranche. Voilà, j'aurai plusieurs parfums, je pense, avec du boudin noir notamment. Donc
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mélissa, parce qu'on oublie trop souvent dans les grandes régions charcutières que la Normandie, traditionnellement, c'est une terre de cochons aussi. Il n'y a pas que la vache et la pomme, il y a aussi le cochon, et depuis bien longtemps.
Ah oui, exactement, oui, oui. Et puis des spécialités charcutières. Tu sais, moi, je me suis vraiment adapté à mon terroir et j'ai créé des pâtés en croûte, donc avec le boudin noir, comme je te le disais.
Mais ah bah, le fameux boudin de Mortagne, enfin en tout cas de la région, quoi.
Les tripes de vache normande aussi.
Ah bah oui.
Des pâtés en croûte avec ça, avec de l'andouille aussi, normande, donc.
Eh ben oui, on va dire qu'entre Vire et Le Perche, il y a de quoi faire, hein, du côté du cochon. Alors, Emeline, moi, ce qui m'intéresserait, au fond, c'est que vous m'expliquiez, un peu comme l'a fait Mélissa, ce renouveau du métier autour de la charcuterie et du traiteur, hein, parce que vous faites quand même un boulot de traiteur si vous travaillez le pâté en croûte, c'est le retour des femmes, quoi, au devant de la scène. Moi, je trouve ça magnifique, parce que c'était un métier qui était quand même extrêmement tenu par les messieurs. Hein.
Exactement, oui. Écoute, moi j'ai un certain nombre de copines là, qui sont charcutières,
ouais,
et qui mériteraient d'être davantage mises en avant, parce que effectivement elles arrivent à petits pas, hein, sur la scène charcutière française. Mmh. Mais je suis ravie et je félicite Mélissa pour son nouveau poste de présidente des charcutiers du Grand Paris,
ouais,
parce qu'on a besoin de femmes qui représentent vraiment, à la fois dans les jurys, dans les concours, dans les institutions professionnelles, les femmes, quoi, charcutières. Et ainsi, j'espère qu'elles seront beaucoup plus nombreuses. Tu sais, moi, j'en prends là en stage, hein, régulièrement, des jeunes femmes. Donc, je vois bien qu'il y a un intérêt pour ce métier. Et tout le monde a y gagné, qu'il y ait un peu plus de parité dans ce métier. Donc, j'ai vraiment bon espoir. Ouais, ça bien.
Et puis, Emeline, vous avez déposé votre dossier pour le championnat du monde de pâté croûte. Hein, vous êtes en attente de savoir si vous êtes sélectionnée. Moi, je crois que ça ne fait pas de doute.
Ouais. Non, bah écoute, ouais, je suis pas sereine, hein, quand même.
Hein, non, mais il y a de la concurrence. Hein.
Ah oui, là c'est très sérieux. Hein. On ne parle pas d'un petit concours. Non, là, il y a vraiment des candidats très sérieux. Mais tu sais, j'ai pour ambition justement de devenir la première femme championne du monde de pâté en croûte. Ça me ferait tellement plaisir.
On ne peut vous souhaiter que ça. Alors, vous avez vu qu'on parlait de pâté en croûte, et là, dès qu'on parle du championnat du monde, j'ai dit pâté croûte, hein, parce que ce sont les Lyonnais, hein, qui chapotent, l'ami Christophe Marguin et Thierry Demange. Et donc, à Lyon, on dit plutôt pâté croûte, mais c'est bien le même quand même. On est d'accord.
Oui, c'est bien le même. Oui, bah alors tu sais quand même que ça fait 3 années de suite que c'est les Japonais qui...
Ah oui.
Donc, commence à devenir un peu énervant.
Bah, on aimerait bien, oui.
Il y a encore du gros, gros niveau au Japon. Donc,
parce qu'on sait bien que quand les Japonais s'intéressent à quelque chose de près, ils le font à fond et bien. Hein, en général, ouais, hein, parce qu'ils apprennent et ils sont là, ils relèvent le niveau, c'est une bonne chose. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient goûter vos pâtés croûtes ou pâtés en croûte et qui ne passent pas par Le Perche, il y a moyen de commander, de se faire livrer comment ça marche?
Oui, alors, tu sais, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir de boutique physique. Je suis
un
petit artisan, donc
un labo, quoi.
Pas de stock, je produits frais toutes les semaines.
Ouais.
Et donc, on peut venir évidemment les chercher dans Le Perche. Mais
je
prédis aussi tous les jeudis. Alors, je suis à Saint-Maurice-les-Charançais.
D'accord.
Sur la Nationale 12, entre Mortagne et Verneuil.
Voilà, le pays du cochon.
Le pays du cochon. Le samedi matin, tu peux me retrouver sur le marché de Mortagne-Perche.
Ah, bah, génial. Génial.
Voilà. Et puis, tous les jeudis, j'expédie avec ChronoFresh vers toute la France. Donc, vous pouvez passer
génial.
Commande sur le site pourdebon.com, c'est un circuit court. Voilà, vous trouverez ma boutique et j'expédie des pâtés en croûte entiers. Donc il faut une occasion festive de se réunir.
Ah bah oui. Vous tranchez pas sous vide, hein?
Non.
C'est à la pièce. À la pièce, mais ça fait quoi? Ça fait environ quoi? 4 kilos? Enfin non, bon, on peut démarrer un peu plus petit, non? 2,5 kg. Bon, d'accord.
Voilà, okay. Il faut être une bonne dizaine pour pouvoir bien en profiter. Pour
ou alors des grands gourmands, des grands amateurs.
Moi, je ne veux pas qu'on congèle, hein, mon pâté en croûte.
Ah ouais, oulala.
Tu as vite plein de copains, ta famille, mais tu ne mets pas ça au congélateur,
hein,
c'est pas possible.
Hein. Ok, Emeline. Et pour ceux qui n'auront pas, je dirais, tapé dans le pâté croûte d'ici là, d'ici au week-end prochain, eh bien, on vous retrouve évidemment à Alençon. Il y aura un petit peu de calme quand même le 28 et le 29 à tous paysans.
Oui, 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 le dimanche. Moi, j'y suis le dimanche, mais j'aurai effectivement quelques pâtés en croûte. À vendre à la tranche pour les gourmands.
Alors, dimanche prochain, pendant que nous, dans Fernio fait le marché, on sera du côté du chocolat, parce que c'est le salon du chocolat à Paris, et qu'on en parlera évidemment, et ben, de votre côté, vous serez en train de régaler tous les Normands de vos merveilles, les Normands et les Percherons qui passeront par Alençon dans l'Orne. Merci beaucoup, Emeline Aubry, et on croise les doigts, hein, pour le championnat, on en reparlera, hein, c'est sûr. C'est sûr.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Voilà, c'est fini. C'est fini ces charcuteries. Et on va même pouvoir se la faire à la maison ou alors en allant à Alençon. Hein. Mais ça sera si vous passez dans le coin le week-end prochain. Et si vous êtes au marché au moment où l'émission se déroulait, là, ce matin, eh ben, pas de souci, vous pouvez l'écouter en podcast sur sudradio.fr. Allez, je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouverez, comme d'habitude, Alexandre Devecchio en tout. Vérité. Et oui, la vérité, voilà, c'est notre marque de fabrique ici à Sud Radio. Et puis après, vous pourrez vous régaler de toutes les manières et de toutes les merveilles dont on a parlé ce matin à l'antenne. Allez, bon dimanche à tous.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.